Et oui, pendant la période de confinement, Radio France mutualise ses moyens, il faut tenir et c'est pourquoi vous venez d'entendre le journal d'Inter. En attendant, il est 7h42, vous écoutez les matins de France Culture et voici la revue de presse internationale d'Éric Biégala. Bonjour Éric.
Bonjour Guillaume.
Avec à la une de la plupart des médias ce matin, l'hospitalisation en soins intensifs du Premier ministre britannique.
Oui, l'annonce de l'admission de Boris Johnson à l'hôpital Saint-Thomas de Londres dimanche soir faisait déjà les gros titres de la presse hier, mais durant la journée d'hier, les annonces rassurantes du 10 Downing Street s'étaient multipliées, comme quoi l'hospitalisation du chef du gouvernement n'avait été recommandée qu'à titre de précaution et que Boris Johnson demeurait clairement à la manœuvre et en responsabilité. Tout ça a été balayé hier soir avec l'annonce du placement de Boris Johnson dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Thomas. Comme l'écrit The Independent ce matin, l'extraordinaire est devenu la norme dans cette crise et cette admission en soins intensifs en est le dernier exemple. Pour autant, le Premier ministre britannique n'a pas été placé sous assistance respiratoire. Il reste conscient. Ces unités de soins intensifs, explique le site web de la BBC, peuvent traiter des patients aux conditions très variées. Elles disposent d'appareils simples d'aide à la respiration, de respirateurs proprement dit, et même, à l'hôpital Saint-Thomas, d'un ECMO, une membrane respiratoire extracorporelle capable de suppléer complètement les fonctions cardiaques et respiratoires d'un patient. Il n'y a que quelques-uns de ces appareils dans le pays. Boris Johnson n'en est peut-être pas à devoir être assisté par ces machines, mais, note Laura Kunzberg, la chef du service politique de la BBC, avec un pronostic médical désormais aussi incertain, le gouvernement a choisi de mettre en avant le Foreign Secretary, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, Dominic Raab, en remplacement du Premier ministre. Visiblement lui-même sous le choc, poursuit Laura Kunzberg, Dominic Raab a simplement pu déclarer lundi soir que le gouvernement se concentrait dorénavant sur le plan de bataille contre l'épidémie que le Premier ministre avait lui-même lancé. Mais la tâche de Dominic Raab risque de ne pas être des plus simples, prévient pour sa part The Guardian. Les démentis répétés du gouvernement quant à la détérioration de l'état de santé du Premier ministre ont entamé sa crédibilité et risquent de plomber la confiance dans tout ce qu'il aura à dire et à faire valoir à l'avenir.
Et puis aux États-Unis, l'épidémie a pris le tour d'une véritable hécatombe, notamment à New York.
Oui, la grosse pomme, comme on l'appelle familièrement, est l'épicentre de l'épidémie aux États-Unis. L'État de New York a vu près de 5000 décès, la moitié dans la ville de New York. 5000 décès, cela veut dire que la ville et l'État de New York concentrent la moitié des décès liés au coronavirus dans le pays. Qui plus est, avec 16 000 personnes hospitalisées, New York est désormais à la limite de ce que peut supporter son système de santé, prévenait le gouverneur Andrew Cuomo, cité par le New York Post. Notre système de santé, dit-il, fonctionne actuellement le pied au plancher. Le moteur est dans le rouge et on ne peut pas aller plus vite et on ne pourra pas continuer à ce rythme sans risquer l'explosion. Le gouverneur de New York, qui a également annoncé que le président Trump avait abondé dans son sens et autorisé finalement le navire hôpital militaire USNS Comfort, qui était arrivé la semaine dernière en rade de New York, à prendre en charge des patients atteints par le virus. Le navire militaire devait à l'origine accueillir les patients souffrant d'autres maux. Autre symbole très clair du niveau de la crise, rajoute le New York Times, le diocèse épiscopal vient d'annoncer que la cathédrale Saint-Jean à Manhattan serait transformée en hôpital de campagne. Et avec le nombre de morts en ville qui explose, poursuit le quotidien, les services mortuaires sont désormais en passe d'être eux-mêmes débordés. Le président du comité santé du conseil municipal de New York envisage d'ailleurs la création de fosses communes dans certains parcs et jardins de la ville pour y enterrer temporairement les défunts. Le maire de New York, Bill de Blasio, a confirmé la chose, se référant à Hart Island, cette bande de terre désolée en face de la côte sud-est du Bronx, a une histoire déjà macabre, rappelle à ce propos le New York Post. Elle a accueilli une prison pendant la guerre de sécession, plus tard un dispensaire pour tuberculeux et a servi dans les années 80 de cimetière pour les milliers de victimes du sida qui n'avaient pu bénéficier d'enterrements dignes de ce nom.
Et puis on termine avec l'Australie, Eric, où le cardinal George Pell, condamné pour abus sexuels, vient d'être blanchi.
Oui, le cardinal, ancien trésorier du Vatican, avait été condamné en 2018 à 6 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'abus sexuels sur 2 jeunes enfants de cœur dans les années 90 quand il était archevêque de Melbourne. Mais hier, la Haute Cour d'Australie, la plus haute instance judiciaire du pays, a finalement cassé ce jugement. Cette décision sensationnelle dans l'affaire la plus controversée d'Australie risque d'avoir une forte résonance depuis Canberra jusqu'au Vatican en passant par Melbourne ou Ballarat où vivent toujours les familles des accusateurs du cardinal, remarque le Sydney Morning Herald ce matin. matin. Ce jugement risque également, poursuit le quotidien, d'entraîner quelques examens en profondeur quant aux errements du système judiciaire australien. Le cardinal Pell, en effet, condamné en première instance en 2018, peine confirmée par la cour d'appel de Victoria en 2019, vient d'être blanchi par une haute cour dont les 7 juges ont jugé à l'unanimité qu'on ne pouvait en aucune manière conclure à un verdict de culpabilité en l'absence de preuves indubitables. En l'occurrence, les charges qui pesaient sur le cardinal ne reposaient essentiellement que sur le témoignage d'une seule personne. Le jugement de la haute cour a été annoncé tôt ce mardi matin, rapporte ABC Australia, et à 12h30, le cardinal est sorti libre de la prison de Barwon à Victoria, mettant ainsi un terme à une saga judiciaire de plus de 5 ans.
Merci Eric Biegala pour cette revue de presse internationale. On la retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr. Suite des matins sur France Culture, il est 7h47.